Quand vous réfléchissez à votre relation quotidienne avec Dieu, est-ce que vous vous représentez Dieu comme un bon maître, un bon guide, un gendre de berger? Ou bien imaginez-vous plutôt que Dieu, c'est quelqu'un qui vous afflige sans pitié? Avez-vous l'impression d'être coincé entre les griffes d'un être qui ne se soucie pas de vous? Ou bien est-ce que vous avez l'impression de reposer, au contraire, entre les mains d'un Dieu qui vous aime? L'Écriture nous affirme que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans ce monde. Mais si l'homme n'était pas totalement libre, comme si l'homme n'était pas totalement libre de vivre comme il veut, mais l'Écriture affirme aussi que nous les hommes, nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, comme s'il y avait certaines attentes qui reposaient sur nous, et comme si certaines décisions étaient vraiment entre nos mains. Nous avons l'impression parfois d'être coincés entre toutes sortes de circonstances et de réalités, soit positives, soit négatives dans notre vie. En fait, l'Ecclésiaste chapitre 7 parle du fait que nous, les êtres humains, nous sommes coincés entre le bonheur et le malheur, coincés entre le légalisme et le laxisme, coincés entre la justice et le péché. Alors nous allons organiser les versets 13 à 29 d'Ecclésiaste chapitre 7 autour de ces trois juxtapositions, afin de voir si nous sommes vraiment coincés entre les griffes d'un être divin qui ne soucie pas de nous, ou bien si nous reposons plutôt entre les mains d'un Dieu de l'amour. On va lire maintenant Ecclésiaste chapitre 7, versets 13 à 29. Ecclésiaste 7, 13 à 29. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour de malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. J'ai vu tout cela pendant ma vaine existence. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. Ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche pas. Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même, bien des fois, maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, j'aurai de la sagesse, mais il reste loin de moi. Ce qui existe est loin, profond, profond. Qui peut l'atteindre? J'en suis venu de tout mon cœur à connaître, à explorer et à chercher la sagesse et la raison, à connaître aussi la méchanceté, l'insanité, la folie et la démence. Or j'ai trouvé plus amer que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet et dont les mains sont les liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur deviendra sa capture. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste en examinant les choses une à une pour en trouver la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, Nous ne sommes pas dignes de te louer à travers cette étude de ta parole. Mais nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qui éclaire notre sentier. Guide cette étude de ta parole, Seigneur, et rends-nous conscients de toutes les vérités qu'elle contient, afin que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Commençons donc par les versets 13 à 15. Ces versets nous disent que nous sommes un peu coincés entre le bonheur et le malheur, et qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour changer cette situation. Regardez le verset 13, on va commencer là. « Qui peut redresser ce que Dieu a courbé ?» Le Qohélète, le roi philosophe qui a écrit ces versets, a déjà observé le monde autour de lui. Il a déjà constaté la façon dont les saisons changent. Il a vu les difficultés que l'homme subit dans cette vie courte mais dure. Il nous a parlé de toute la vanité qu'il a observée sous le soleil. Mais maintenant, il nous pose la question de qui a le pouvoir de changer, de redresser ce que Dieu a fait. C'est qu'on posait la question, qui est capable de contenir le fleuve du Rhône dans un gobelet en plastique? Qui peut attraper le vent dans un filet? Et la réponse à ce genre de questions rhétoriques est censée être évidente, n'est-ce pas? Personne ne changera ce que Dieu a fait. Personne ne redressera ce que Dieu a courbé. Alors ces versets ne veulent pas dire que Dieu est l'auteur du mal, ou qu'il nous envoie le malheur exprès pour son propre plaisir. Ce n'est pas ça l'idée. Ça veut dire tout simplement que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans ce monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas à la merci de la nature aveugle ou du hasard, mais nous sommes soutenus plutôt par un être bienveillant, malgré ce qui se passe. C'est vrai que certaines personnes s'imaginent que ces versets impliquent que l'homme ait son pouvoir face à la fatalité. L'homme serait comme coincé entre les griffes de Dieu qui envoie le malheur d'une manière aléatoire. Mais en fait, je pense que les versets 13 à 15 nous invitent à élargir notre perspective sur Dieu. Par exemple, peut-être vous connaissez le film, un film qui s'appelle Terminator, vous connaissez peut-être. C'est un film science-fiction, vraiment classique, un peu culte, comme on dit. Ce film raconte l'histoire d'une femme qui est la cible d'un robot cyborg, d'accord, très très menaçant, presque indestructible, et qui veut la tuer aussi. Donc ce n'est pas une très bonne situation pour cette femme. Au fil de l'histoire, la femme se rend compte qu'un mec bizarre la poursuit, d'accord? Et donc elle se cache dans une boîte de nuit. Mais soudain, le mec bizarre apparaît. Il s'approche d'elle et il sort un gros fusil. C'est horrible. Alors elle pense que les carottes sont cuites, n'est-ce pas? C'est la mort certaine. Mais le mec lui crie, baisse la tête, et il tire une dizaine de balles dans le cyborg qui était juste derrière elle. C'est vraiment super. Le mec menaçant était en fait son protecteur, vous voyez? Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu ressemble à un mec bizarre qui porte un gros fusil, d'accord? Je veux dire par contre que la manière dont Dieu agit dans ce monde est plus complexe que ce qu'on imagine. Nous pensons que nous sommes à la merci d'un être méchant, que nous sommes coincés entre les griffes horribles de Dieu. Nous pensons que Dieu a courbé la vie et que nous ne pouvons rien faire pour la redresser. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas changer le plan de Dieu. Mais en fait, celui qui semble nous menacer est vraiment celui qui a un bon plan pour sa création. Nous sommes sous le règne souverain de Dieu. Et cette souveraineté peut nous réconforter si nous prenons en considération le bon plan rédempteur de Dieu pour nous, les croyants. Ces versets ne servent pas à communiquer une vision fataliste, païenne du monde, mais simplement à rappeler que ce monde déchu est soumis à la souveraineté de Dieu. Cette alternance que nous vivons entre le malheur et le bonheur nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre vie. Le Kohelet nous rappelle que cette vie semble vaine et pleine de malheur, mais cette fois, il nous offre un petit indice qui pointe vers une espérance. Dieu est là. Dieu est là. Même l'apôtre Paul a reconnu la vanité de cette vie quand il a dit « La création a été soumise à la vanité. » Mais Paul a poursuivi en disant ceci. Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'homme n'est pas en fait coincé entre les griffes d'un Dieu méchant, mais il repose entre les mains d'un Dieu qui nous aime. Mais regardez maintenant la suite, les versets 16 à 22. Ici, le texte nous appelle à n'être ni trop sage, ni trop juste. C'est comme si le roi philosophe demandait à son peuple d'enfreindre la loi parfois, de prendre de mauvaises décisions de temps à autre. En fait, le conseil que donne le verset 16 nous semble un peu bizarre, n'est-ce pas? Imaginez un patron qui demande à ses employés d'échouer une fois sur deux. Un professeur qui demande à ses étudiants de louper leurs examens de temps en temps. Ce n'est pas très logique. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est le verset 17, qui conseille de ne pas être trop méchant ni trop insensé. Parce qu'on peut, être un peu méchant, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Un peu stupide, ça ira. C'est un peu ça le sens qui nous donne ce texte. La réponse à ces versets étranges, se trouve dans la suite du texte, je crois. Le verset 18 nous invite à éviter toutes les extrêmes en restant réalistes par rapport à qui nous sommes. En réalité, selon le verset 20, personne n'est parfaitement juste. Et ce point est illustré par le fait de ne pas prendre à cœur la calomnie et les médisances des autres, parce que nous aussi nous sommes coupables, voire plus coupables que les autres. Et donc, ce que le Kohelet est en train de dire, c'est que nous sommes coincés entre le légalisme d'un côté et le laxisme de l'autre côté. D'un côté, on risque de tomber dans un travers qui consiste à penser qu'on est parfait, qu'on peut atteindre la perfection par nos propres efforts à être juste. Mais de l'autre côté, on risque de tomber dans les horreurs d'une vie faite de plaisirs égoïstes et de folles perversions. Vous connaissez peut-être le funambule français Philippe Petit, qui a réalisé une traversée sur un câble entre le sommet des deux tours de World Trade Center à New York, en 1974, je crois. Il a traversé 8 fois entre ces deux tours à plus que 400 mètres au-dessous du sol. C'est incroyable. C'est un exploit incroyable. Mais il a dit plus tard, « Pour moi, ça paraît tellement simple que la vie doit être vécue sur le fil. Ça paraît tellement simple que la vie doit être vécue sur le fil. » En tant que chrétien, nous pouvons peut-être nous identifier à cette remarque. Nous marchons par le pouvoir de Christ, par la grâce de Dieu, sur le chemin étroit. Nous marchons sur un fil avec deux tendances qui nous attirent de chaque côté, le légalisme et le laxisme. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7, « Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. » Le Kohelet aussi se rend compte que les fidèles marchent sur un fil. Mais en tant que chrétien, nous savons que nous sommes soutenus par notre Sauveur. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons traverser au-dessus de ce vide terrible qui est notre péché, notre arrogance. Par la grâce de Dieu, nous reposons entre les mains de Dieu de l'univers. Ensuite, dans la dernière partie de ce texte, les versets 23 à 29, nous voyons la façon dont l'homme est coincé entre la sagesse qui le mène à la justice et la folie qui le mène au péché. Le roi philosophe nous parle à la première personne en racontant sa recherche de la sagesse et sa descente tragique dans la folie. Autrement dit, le Qohelet est en train d'expliquer que l'homme est victime de sa propre folie. Les versets 23 et 24 résument la conclusion amère de toute philosophie, du monde. La sagesse reste loin de moi, profond. Qui peut l'atteindre? Il y a toujours plus à apprendre, n'est-ce pas? Plus à découvrir. Il y a toujours un contre-argument, une meilleure théorie, une autre réponse. Le Qohelet, le roi philosophe, s'enforce dans la folie et dans la méchanceté. Et au verset 26, il est attrapé par une femme séductrice, ce qui nous fait penser à la folie et au péché, qui serait personnifié en cette femme subtile, méchante et dépourvue de sens, que l'on trouve notamment dans Proverbes chapitre 6 et 7. Et bien qu'on ne sache pas qui est cette femme vraiment, si elle est une vraie femme ou pas, elle représente au moins la folie qui nous attire dans son piège. Le Qohelet a cherché partout. Il n'a pas trouvé, ou il n'a trouvé qu'un seul homme sage et juste entre mille, mais pas une seule femme. Alors, avant de se vexer par rapport à ce que dit le Qohelet dans ce verset, on a besoin d'avoir un peu plus de contexte. Premièrement, si le Qohelet est vraiment le roi Salomon, il est possible qu'il pense à un homme en particulier qu'il considère sage ou juste, peut-être un prophète ou quelqu'un qu'il a rencontré. Il est possible aussi qu'il se souvienne de ses propres femmes. Ces femmes qui ont détourné son cœur contre Dieu, comme on le voit dans 1 Roi chapitre 11. Et donc, il parle tout simplement de son expérience. C'est vraiment possible. Ensuite, la Bible affirme la valeur et la vertu de beaucoup de femmes. D'accord? Comme dans le livre de Ruth, d'Esther, dans le Proverbe 31, par exemple, Luc 8, dans le livre des Actes, dans les Épîtres. Il y a beaucoup de références comme ça. Et enfin, le Qohelet a déjà dit qu'il n'y avait sur terre point d'homme juste. Et donc, je pense que la lecture la plus naturelle de ces versets, c'est tout simplement que la justice est rare chez les êtres humains. C'est tout. Que nous sommes tous remplis de péché et de la folie. C'est un message qui fait contraste avec les présupposés de certaines philosophie aujourd'hui. Karl Marx, par exemple, a cru dans la justice et dans la bienveillance innée de l'homme. Il a défendu un humanisme absolu, où l'homme est un être suprême et fondamentalement bon. Mais ironiquement, cette foi en homme, cet humanisme absolu, a coûté plus que 100 millions de vies humaine au cours du XXe siècle. Par contre, selon le verset 29, Dieu a fait les hommes droits et ce sont eux qui sont déchus, qui ont maintenant une nature corrompue et rebelle. Je pense que la Bible est plus réaliste par rapport à l'homme et par rapport à notre condition humaine. Nous sommes coincés entre la justice et le péché, entre la bonté et la méchanceté. J'apprécie cette honnêteté, en fait. Malgré nos meilleurs efforts, on ne peut pas redresser une espèce humaine courbée, tordue, déformée. Nous sommes obligés de nous tourner vers Dieu qui nous tient dans ses mains. Alors, pour conclure, il y a trois choses que nous pouvons apprendre de ces versets. D'abord, nous servons un Dieu qui est vraiment souverain. Nous ne pouvons rien découvrir de notre avenir, comme le dit le verset 14 dans ce texte, mais nous servons le Dieu qui tient notre avenir entre ses mains, qui inscrit notre vie dans son plan rédempteur. Deuxièmement, le texte nous appelle de ne pas mettre notre confiance ni en notre propre justice, ni en notre attirance pour les plaisirs de ce monde. Il y a un meilleur chemin qui mène à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et enfin, troisièmement, ce texte nous rappelle qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Romains chapitre 3 s'accorde avec l'Ecclésiaste pour dire qu'il n'y a pas une seule personne juste dans ce monde. Il n'y a même pas un homme juste qui peut démêler l'embrouillement de notre vie. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle. Le Qohélète nous dit que les hommes et les femmes justes sont rares dans ce monde. Mais nous, les chrétiens, nous avons trouvé un homme juste, n'est-ce pas? Un homme parfaitement juste, c'est Jésus-Christ. Le Sauveur qui a donné sa vie afin de nous arracher d'entre les griffes de la mort et de l'enfer. Il n'y avait qu'un homme qui pouvait prendre le jugement mérité par les hommes. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait surmonter le chaos qu'a entraîné notre chute. Jésus, l'homme-Dieu, a accompli cette œuvre. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous maintenant à garder une vision réaliste de qui nous sommes et de qui tu es. Malgré les circonstances de notre vie, aide-nous à rester fidèles à toi, Seigneur. Tu es notre souverain maître. Aide-nous, Seigneur, de mettre notre confiance en toi, en tes promesses. Au nom de Jésus. Amen.